Bonjour d'abord à toutes et à tous. C'est toujours un bon moment que de venir ici. Ce matin, je crois que Tony avait effectivement orienté ses chants autour du Saint-Esprit qui était présent et qui est présent du début à la fin, comme le Père, comme le Fils, ils ont toujours travaillé ensemble. La semaine dernière, nous avons préparé un peu ce temps. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Enfin, faisons souvenir de la Pentecôte. J'espère que ça l'est un peu tous les jours pour plusieurs d'entre nous. Hein. La semaine dernière, peut-être vous êtes dit, je sais que certains l'ont dit, il nous a fait la Bible hein, un peu en trois quarts d'heure, depuis l'Éden jusqu'à ce que Dieu soit tout en tous. Ben oui, parce que c'est la réalité, c'est ce que Dieu a voulu. Ce matin, avant de me lever, je me disais, mais dans le fond, Seigneur, tout ce que tu nous as apporté, dans ce qui est écrit dans la Bible, c'est la réalité. Et il ne faudrait pas mettre les choses dans le désordre. Souvent, les hommes disent, ah, il faut bien les pieds sur terre, il y a les réalités. Mais non, la réalité, c'est Dieu. C'est lui qui a créé, c'est lui qui nous a donné. Et il y a eu, c'est pas un incident de parcours, il y a eu une tragédie. Il y a eu une tragédie, la chute. Mais il n'a pas abandonné, il n'a pas changé son plan, il est l'architecte, le constructeur. Donc, des choses peut-être, ils disent, ah là là, c'est compliqué tout ça. Mais non, on a été créé pour cela, pour vivre ces choses. Je voudrais vraiment qu'on se mette dans cette disposition de cœur. Nous sommes des créatures divines. Une tragédie est survenue, mais celui qui nous a créés, le Père, a voulu rétablir. Et il en a les moyens, nous l'avons chanté, il est grand. Et nous avons vu dimanche dernier comment il recherche cette intimité, hein, depuis cette séparation à la chute, jusque Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est les temps que nous vivons, c'est ça, c'est pas les temps à venir, c'est les temps que nous vivons, Christ en nous, et c'est parce que Christ est en nous que nous allons pouvoir vivre un certain nombre de choses que le monde qui soupire, qui gémit, a besoin de voir et d'entendre. Et j'apprenais que vendredi soir à Rennes, c'était des choses désastreuses. Les violences, le monde soupire, gémit, est perdu, et il a besoin de la manifestation de la vie glorieuse des enfants de Dieu. Et ça, c'est pas ce que j'avais préparé, mais j'ai vraiment quelque chose que je voudrais vous dire tout de suite. C'est que moi, j'ai une souffrance dans mon cœur. Je trouve que de plus en plus, les chrétiens veulent vivre dans le monde, etc. Mais ce n'est pas nous avons à être séparés, entendons-nous, une vie différente. Ne pas nous dissoudre dans le monde. C'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres, un amour manifesté, pas simplement dit de la bouche, manifesté, vécu par des temps qu'on vit en commun, par des choses que l'on vit, par des œuvres qui sont faites en commun. C'est comme ça que l'Église devient une manifestation et un témoignage. Et souvent, nous sommes entravés, je commence des fois par la conclusion, parce que on est tiraillé, parce qu'on veut encore goûter les choses du monde. Et aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Et je crois que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour entrer dans ces choses et les vivre avec une pleine liberté, une pleine assurance. Je vais aborder un peu ces sujets. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est les fruits de la Pentecôte. Et j'ai mis un peu un sous-titre, un esprit de force, d'amour, de sagesse. Et puis il y aura d'autres choses aussi. Je vous invite, on va lire deux textes, parce que dans Jean 16, et puis dans les Actes, le chapitre 2, enfin une bonne partie du chapitre 2 des Actes, c'est des textes que nous connaissons bien, mais je les trouve tellement merveilleux. Hein. Dans Jean 16, c'est Jésus qui termine son ministère terrestre et qui dit à ses disciples, « Eh bien oui, je vais partir, mais je ne vais pas vous laisser seul. » Et dans Acte 2, on verra l'accomplissement de cette promesse qui avait été déjà faite bien avant, mais ça j'en parlerai un peu après. Jean 16, verset 12 à 15. Finalement, on va partir à partir du verset 5. Jean 16, à partir du verset 5. « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Vous m'entendez là ? Oui. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais si vous ne pouvez pas les, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Je m'arrête là pour ce passage et nous lirons acte 2, l'accomplissement de ces promesses. Vous notez déjà dans ce passage que le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissent en permanence ensemble. Voilà l'unité. Trois personnes, une parfaite unité. Ils sont un. C'est un des fruits de la Pentecôte qui vient de Dieu parce que Dieu est un. Ils sont complémentaires. Alors, acte 2, nous lisons. On va lire jusqu'au verset 36, je lirai le reste un peu plus tard. « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout à coup, il vint du ciel, un bruit comme celle d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit de qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont pas tous des Galiléens ? Ne sont-ils pas tous des Galiléens ? » Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les onze, l'éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein, arrêté arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alors, lecture assez longue, mais je crois indispensable. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce discours de Pierre est absolument extraordinaire. Il est solide, il est établi, il s'appuie sur l'Écriture. Ce n'est pas une divagation de quelqu'un en extase. Vraiment, c'est ça l'inspiration. Il y a une onction sur ce discours extraordinaire. Je vais reprendre ça un petit peu en détail. Je voudrais souligner deux aspects, justement, marquants à la Pentecôte. Peut-être on ne le souligne pas souvent. Première chose, à la Pentecôte, on passe de la confusion de Babel à l'unité par le Saint-Esprit. L'épisode de Babel est intéressant. Babel, c'est quoi ? Les hommes qui veulent se faire un nom et qui élèvent une tour, qui tentent d'élever une tour jusqu'aux cieux. C'est l'homme qui veut s'élever à Dieu. C'est sans arrêt cette histoire-là. Et Dieu, nous sommes après la chute, et Dieu voit ça, il dit, ils veulent se faire un nom. Or, Dieu a prévu, dans le mandat qu'il a donné à un homme, de se disperser sur la totalité de la surface de la terre, et l'homme veut construire son système. Le système babylonien, c'est ça. C'est les constructions humaines, parfois particulièrement élaborées, et nous sommes dans ces temps où l'esprit de Babylone agit pleinement. Des constructions humaines tout à fait sophistiquées, il n'est qu'à voir les ouvrages qu'on est capable de bâtir, les systèmes informatiques qui contrôlent le monde, les satellites, etc. Humainement, il y a une belle intelligence. Dieu a donné l'intelligence à l'homme, il s'en sert, l'homme, pour sa gloire. Et c'est ça, Babel et Babylone. Et Dieu avait dit, il a donné la confusion et il a donné plusieurs langues, de telle sorte que les hommes ne pouvaient plus se comprendre. À la Pentecôte, cette chose est rétablie par le Saint-Esprit. Et ce don des diverses langues est donné vraiment à la Pentecôte pour que la bonne nouvelle soit répandue et que chacun l'entende. Au passage, on note que tous les temps de réveil dans l'histoire de l'Église s'accompagnent d'une diffusion de la parole, que ce soit au moment de la Réforme, quelques années, dans les mêmes années, il y a l'apparition de l'imprimerie qui va faciliter la diffusion. C'est cet esprit-là que la parole de Dieu puisse être entendue par le plus grand nombre. Et ça, c'est l'esprit de la Pentecôte. On a aussi, dans les réveils à partir du 19e, le développement des missions. On va voir, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, ça, c'est des hommes et des femmes qui ont quasiment consacré leur vie à traduire la Bible dans une infinité de langues, de dialectes. Et ça, c'est extraordinaire. Quand on se représente le travail que que c'est que de traduire ce livre, qui n'est pas tout à fait un livre, ce n'est pas une notice technique, c'est quelque chose qui parle au cœur de l'homme. Et quand on pense à ces vies qui ont été données, des gens qui se sont consacrés à apprendre souvent déjà la langue du pays où ils étaient, pour ensuite traduire soit des portions, soit la totalité de la Bible dans ces langues. Ça, c'est vraiment une œuvre aussi, et c'est un des sens importants de la Pentecôte, l'unité par la diffusion de ces vérités, de ce témoignage, de ce discours de Pierre, qui est quand même fondateur dans notre foi. Aujourd'hui encore, vous savez que des fois, j'ai des mots un peu durs sur Internet, les réseaux sociaux, etc. J'ai toujours un peu sur les réseaux sociaux, mais bon, mais sur Internet, il est certain qu'aujourd'hui, on a la Bible disponible dans des langues en accès facilité au monde entier. Ce qui indique aussi que je pense que nous sommes dans les derniers temps, enfin que les choses se précisent, parce que aujourd'hui, on peut dire que bon, la totalité de l'humanité a un accès quasiment. À la connaissance de la vérité. Hein, c'est parce que les gens ne le souhaitent pas, pour diverses raisons, mais il y a vraiment accès. Hein, quand on voit tout ce qu'on va chercher sur Internet, ce n'est pas compliqué, en tapant la Bible, d'avoir des traductions de grande qualité. Donc, je pense que c'est un aspect de la Pentecôte qu'il ne faut pas oublier, de la confusion de Babel à l'unité par le Saint-Esprit. La deuxième point important qui m'apparaît à la Pentecôte, c'est une révélation nouvelle de la parole de Dieu, et on peut s'appuyer sur le discours de Pierre là-dessus. C'est un discours prophétique qui révèle les promesses et les annonces faites par Dieu précédemment. On a lu Jean 16, Jésus lui-même annonce ce qui va se passer. Mais dans ce texte, ce qui me touche, c'est que Pierre va citer et s'appuyer pour sa démonstration, parce que le discours de Pierre est une véritable démonstration, c'est quelque chose de très argumenté, hein, il va s'appuyer beaucoup sur l'Ancien Testament. Il nous dit d'abord que devant les gens qui sont troublés par ce qui se manifeste, vous imaginez des langues de feu et puis des gens tout à fait ordinaires qui se mettent à parler, je ne sais pas, une vingtaine de langues, là, des gens qui ne les ont jamais apprises. De telle sorte que c'est déjà une image. Alors là, on est bien d'accord, c'était dans l'ensemble des Juifs qui étaient dispersés, hein, de la diaspora, et qui étaient venus sans doute pour la Pâque et qui étaient restés pour ce temps-là. Donc déjà là, le Seigneur montre qu'il veut toucher le plus grand nombre. Ça, c'est déjà un prémisse de l'annonce du salut universel qui se déploiera ensuite dans l'Église à travers le ministère de Pierre en ouverture et puis de Paul en amplitude, enfin en totalité. Hein. Mais les gens comprennent pas. Alors, vous savez, c'est amusant. Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils ont bien entendu parler dans leur propre langue. Ils se disent, mais c'est des gars du coin, ça. Ils n'ont pas fait la fac. Enfin, ils n'ont pas fait de fac de langue. Comment se fait-il? Ils étaient tous, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Hein, quand on ne comprend pas des choses, on peut tourner à la dérision. Encore orgueil de la pensée humaine, si elle ne comprend pas, eh bien, on tourne en dérision. Ça évite de dire, ben, je ne sais pas, finalement. Hein, et de recevoir la vérité. Et Pierre intervient à ce moment-là, dans ce discours, en disant, écoutez ceci. Et tout de suite, il va dire, ces gens ne sont pas ivres, car c'est la troisième heure, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et là, on a vraiment une dimension de la Pentecôte que nous avons à demander pour nous. Je suis très marqué combien peu lisent l'Ancien Testament. Hein, on le répète souvent. Je pense que quelque chose que l'ennemi a mis dans les cœurs, l'Ancien Testament, c'est des clichés hein, qui sont bien installés, bien bien installés. Hein. On a mis Jésus au centre. Alors Jésus, souvent en tant qu'homme d'ailleurs, on a bien du mal à reconnaître comme Dieu et fils de Dieu, mais l'Ancien Testament, alors que tout l'Ancien Testament nous est donné pour nous conduire à Christ. Et là, à ce temps de la Pentecôte, et ce n'est pas pour moi réservé à Pierre, le Seigneur nous invite à être remplis du Saint-Esprit pour saisir, aussi comprendre, avoir une révélation nouvelle des Écritures. Le canon des Écritures est clos, le contenu des Écritures, il n'y a rien à rajouter à la Bible. Par contre, notre compréhension et la révélation, nous avons besoin de davantage de révélation de la parole de Dieu. Et ça, c'est un fruit de la Pentecôte. Il faut le demander. Il faut vraiment demander. Parce que Pierre n'a pas fait l'école biblique. Paul a été élevé au pied de Gamaliel, mais Pierre, c'est un pécheur. Pécheur dans tous les sens. C'est un pécheur qui, certes, a entendu, a été au temple, mais là, c'est vraiment le Seigneur qui lui donne, qui lui rappelle ce passage de Joël. J'en dirai un mot tout à l'heure sur la personnalité de Pierre. Il n'était pas comme ça avant. Il ne faisait pas ces choses-là. Et là, il va citer ce passage de Joël. Et d'ailleurs, il va dire, finalement, ça revient à dire, c'est un premier accomplissement de la prophétie de Joël. Il y en aura une deuxième plus tard pour le peuple juif. Donc, une révélation nouvelle de la parole de Dieu. Et donc, Pierre va nous dire, dans le fond, son argumentation est très simple. Jésus de Nazareth, c'est homme. Dieu fait homme. Il est venu, il a accompli du miracle pour manifester le royaume. Vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité. Il est monté aux cieux, il a répandu le Saint-Esprit. Voilà ce qu'il dit dans son discours. C'est tout. Mais il argumente en s'appuyant. Vous voyez, ça va prendre autorité, ça va prendre force, parce qu'il s'appuie sur ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Pour dire Dieu l'a ressuscité, il va s'appuyer sur le psaume 110 de David. Enfin, le psaume de David, il n'était pas numéroté à l'époque. Il a été élevé à la droite de Dieu. Alors, le psaume 110, on va aller le prendre rapidement. Vous allez voir, c'est curieux l'inspiration. Pardon, je suis un peu... Des prodiges. Pardon, il s'appuie sur le psaume 16 à ce moment-là pour ce qui est de la résurrection. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » C'est David qui dit ça dans le psaume 16. Il dit cela. Et la démonstration que Pierre fait, dire, écoutez, David, il est mort, il est composé, son tombeau est là. Et donc, c'est une véritable démonstration. Alors, vous voyez, c'est pas du flou, c'est du solide. Et Pierre a cette révélation que ce psaume-là, il est prophétique. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pas... Et pour nous, ça fait autorité maintenant. Ce que je voudrais souligner, c'est que nous avons la parole... Nous avons la totalité de la parole et nous avons l'explication de la parole et par les prophètes et les apôtres. Nous avons un fondement solide. Donc, nous n'avons pas besoin d'une interprétation particulière, mais nous en tenir à ce qui nous est révélé, ce que nous avons reçu par les prophètes, les apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, lui-même étant prophète. Alors, il a été élevé à la droite de Dieu, et c'est là que Pierre s'appuie sur le psaume 110 de David. « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Là aussi, il va saisir, quand vous lisez tout le psaume 110, vous dites « Mais comment il a été chercher ça, dans le fond ?» Et là, c'est la révélation. Vous voyez où doit s'appliquer notre foi. La parole, nous n'avons pas tout. Des fois, nous lisons, nous ne comprenons pas. Et ce que je voudrais dire, c'est que demandons au Seigneur. Seigneur, révèle-nous. Il ne nous révèle pas tout d'un seul coup. Il donne aux uns plus ou moins. Recevons ce que Dieu veut nous donner, mais demandons-lui. Demandons-lui une révélation de ta parole. La parole, si on la prend sans le Saint-Esprit, elle est morte. Elle est même dangereuse. Le psaume 119 nous dit, c'est la révélation de ta parole qui est clair. Jésus va dire, aux scribes et aux pharisiens, « Vous sondez les Écritures, espérant trouver en elles la vie éternelle, mais les Écritures rendent témoignage de moi, Jésus-Christ. » Une personne. C'est vraiment quelque chose d'important. Parce que à la Pentecôte, il y a tout ça. Et ça, c'est une œuvre du Saint-Esprit, et nous en avons besoin, infiniment besoin, pour avancer, pour être éclairés, et pour vraiment saisir et se nourrir de la parole. Jésus avait déjà utilisé, avait déjà interpellé les scribes et les pharisiens. Dans Luc 20, au verset 42, Jésus leur dit « Comment dit-on que le Christ est fils de David ?» David lui-même dit dans le livre des psaumes « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David, donc, appelle « Seigneur », et là Jésus révèle que c'est lui dont il est question, « Comment est-il donc son fils ?» Vous voyez les questions paradoxales de Jésus. Oui, Jésus est le fils, un descendant de David selon la chair, mais il est le fils de Dieu. Vous voyez toute cette révélation qu'il y a dans la parole. Je dis ça parce que on est tellement marqué par le rationalisme. Et l'Esprit de Dieu révèle, quand il révèle quelque chose, il y a une attestation qui est faite à la fois de paix, d'assurance, d'humilité. Ça n'élève pas, ça n'amène pas à l'orgueil quand il y a vraiment une révélation de Dieu. Ça amène à cette paix, à cette tranquillité. Donc vous voyez, cet appui sur ce qui a été pour expliquer l'événement présent. On voit là la puissance de Dieu qui a préparé ce temps de la Pentecôte depuis longtemps. On a un autre passage, un autre discours, parce qu'il faut bien appeler ça comme ça, de Étienne aussi. Étienne, un diacre, dont il nous est dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, pour servir aux tables, et qui va se trouver mêlé à une querelle, qui va l'amener devant, les gens vont tellement le détester, qui va être amené devant le souverain sacrificateur, il est accusé de fausses choses, et là le souverain sacrificateur lui dit « mais est-ce que cela est exact ?» Et je ne vais pas vous le lire, parce que acte 7 c'est long, mais je vous invite à le lire, la réponse d'Étienne. Dans cette réponse, Étienne reprend toute l'histoire du peuple de Dieu depuis Abraham et il va terminer, donc il fait référence à toute l'histoire de l'Ancien Testament pour dire à ses juges « homme au cou raide ». C'est-à-dire, il dit aux responsables religieux de l'époque, lui, le simple diacre, on pourrait dire, mais rempli du Saint-Esprit, et il parle avec une autorité et un amour, même quand il leur dit « homme au cou raide », c'est pour les supplier, enfin, de reconnaître celui qui leur a été annoncé, révélé, qui s'est manifesté depuis des siècles à travers l'histoire de leur peuple. Ce peuple qui a connu les promesses, qui a reçu les promesses, qui a reçu la loi. Et Étienne, qui n'a pas fait non plus d'école biblique, de théologie, il a la révélation. C'est clairement Dieu qui lui redonne tous ces textes que peut-être il a entendus dans des cultes au temple. Mais le Seigneur redonne cette parole. Il est dit dans le discours d'Étienne que ceux qui s'opposaient à lui, qui avait de la haine pour lui, ne pouvait résister à sa sagesse, à l'esprit par lequel il parlait. Ils vont être amenés, du coup, à susciter de faux témoins, ce qui va encore plus les enferrer dans leur endurcissement. Parce que quand quelqu'un parle avec l'Esprit de Dieu, il y a une autorité. Et on a le choix, là, c'est très précis, d'accepter ou de refuser. Mais il nous dit, si vous entendez, aujourd'hui, sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a une attestation dans notre cœur, parce qu'il y a la pensée de l'éternité, parce que si notre cœur a été circoncis, il y a quelque chose en nous qui sait si ça vient de Dieu. L'Esprit répandu à la Pentecôte est un révélateur qui dévoile et donne sens à la parole écrite contenue dans la loi, les prophètes et les psaumes. Jésus a commencé d'annoncer cela à ses disciples après la résurrection. Dans Luc 24, au verset 44, puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. » C'est aux disciples d'Emmaüs qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Jésus annonce, quand il dit qu'il va leur ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures, il annonce aussi prophétiquement, à court terme maintenant, ce qui va se passer à la Pentecôte. Donc, deux choses marquantes là sur la Pentecôte, puis après je vais aborder d'autres points, mais la Pentecôte, à travers la Pentecôte, ce qui a été fait à Babel, la confusion qui a été menée, est supprimée. Il y a maintenant un lien d'unité. L'Église, elle est unie par le Saint-Esprit, sur la base de la parole annoncée par les prophètes, les apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Nous sommes là sur le socle de l'Église. Donc il est hors de question de séparer les uns les autres. La parole sans l'Esprit, c'est rien. C'est rien, et ça je peux vous l'attester, c'est absolument rien. L'Esprit qui n'est pas fondé, Jésus leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Les gens entendaient les Écritures parce que le peuple juif avait une transmission des Écritures orales, la plupart du temps, depuis des siècles, sur l'ordre de Dieu. Ce que tu as entendu, transmets-le à tes enfants et aux enfants et veille à ce que ce soit connu. Et le Saint-Esprit, alors, vient comme révélateur. Vous savez, c'est les chalumeaux qui marchent avec deux gaz pour avoir une chaleur plus forte. Il faut la parole et l'esprit. Et c'est les deux qui sont percutants quand ils sont reliés ensemble. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. À la Pentecôte, les fruits de la Pentecôte, c'est aussi un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et je voudrais aborder ces points-là à travers rapidement quatre personnages, trois principaux, et puis il y a quand même Étienne aussi. Pierre à la Pentecôte, c'est une transformation radicale. Souvenons-nous, avant l'arrestation de Jésus, Pierre est certes celui qui a une révélation, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais on va le voir à travers plusieurs événements, il y a un côté, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes, Pierre. Mais, il se met quand même bien au-dessus des autres. Il s'ignore. Rappelons-nous ses paroles. Si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Mes frères, là, des fois on ne se rend pas compte de ce qu'on dit. Les 12 là qui sont là, les 11 qui sont autour de moi, ils vont peut-être t'abandonner, mais pas moi, Pierre. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Vous savez, des fois, tant qu'on ne connaît pas le Seigneur, tant qu'on n'a pas été humilié, on peut en dire des choses. Des fois, après encore, c'est Pierre, c'est ce Pierre-là. C'est sûr, c'est un meneur. C'est un leader. Il aime Jésus. Il l'a suivi depuis le début, c'est vrai. Il reconnaît comme un maître, le rabbi. Il se voit bien comme son bras droit. Il n'y a pas que lui. Jean et Jacques, leur mère, quand tu seras, tu prends mes deux fils. Vous voyez, toutes ces choses-là, elles sont là. C'est clair, jusqu'à l'effondrement. Il n'y a pas de fruit de la Pentecôte s'il n'y a pas eu l'effondrement. Et là, il y a l'effondrement de Pierre qui va trahir. La trahison, mais le regard de Jésus, les pleurs amers, puis le relèvement dans l'humiliation qui va le conduire à l'humilité. Bref, le voici un homme prêt à être rempli, Pierre. Et c'est ce qui se passe à la Pentecôte. Parce que dans le fond, quand vous voyez le discours de la Pentecôte, 50 jours après le reniement, 51 jours ou 2 jours après le reniement, Pierre, en quelques mots, devant le peuple juif, dire « ce Jésus, vous l'avez crucifié », il ne dit pas « nous l'avons crucifié ». Humainement, on dirait « il faut être culotté quand même ». Il se prend pour qui celui-là ? Non, il n'y a plus trace de cela chez Pierre. Il y a une attestation quand on lit ce texte et que le Saint-Esprit nous le montre. Il y a non simplement une liberté. Une liberté, il annonce la vérité avec autorité, avec assurance. Mais il n'y a pas un poil d'arrogance dans ce discours. Parce que cet homme-là, il a été brisé. Ne me demandez pas d'analyser le texte pour savoir quel mot montre cela. Mais je le sais, et vous le savez, et nous le sentons, il n'y a aucune arrogance. Mais il y a une autorité. Il sait maintenant qui il est. Et là, je crois que c'est un fruit important de la Pentecôte. On va le voir pour d'autres personnages, pour Paul. Oui, là, il y a une véritable puissance du Saint-Esprit qui fait qu'un homme qui a été orgueilleux, arrogant, leader, qui a pris ses qualités naturelles et qui en a fait pour ses propres projets, mais qui a été brisé, humilié et cette fois-ci rempli. Et il y a quelque chose de véritablement nouveau, qui a une puissance. Oui, c'est une puissance. C'est une puissance parce que ça touche les cœurs. Parce qu'on sait, il y a une attestation que c'est vrai. Ce que dit Pierre, son but, sa motivation a changé. Sa motivation, c'est d'annoncer la vérité pour que le plus grand nombre soit sauvé. Ce sera la motivation de Paul. Ce sera le deuxième que j'aurai examiné. Avant, un petit détour par Étienne. J'ai déjà parlé de ce long discours. Étienne. J'ai vraiment pas le temps, mais lisez ce chapitre 7 des Actes, c'est absolument merveilleux. Étienne, qui est en train, tout le monde le hait, il a été trompé, il y a eu une subornation de témoins, il y a eu toutes choses pour vraiment le détruire, et il va être lapidé. Mais Étienne parle avec une grande liberté, et une grande assurance, et un amour, et une exhortation encore à revenir, y compris dans cette conclusion, homme au cou raide. Vous avez tout entendu et vous ne venez pas. Mais il a les yeux fixés sur Jésus, tellement fixés sur Jésus, que Jésus va lui apparaître en gloire. Il va voir la gloire du Père et Jésus se tenant à droite. Encore une attestation d'un homme au service. Paul, j'ai intitulé ça « De l'approbation du meurtre d'Étienne à la supplication pour ses frères Galates ». Paul approuvait le meurtre d'Étienne, il partait à Damas, respirant la haine et le meurtre, nous dit l'Écriture. Et sur le chemin, il est terrassé, et il dit « Qui es-tu ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Alors tout de suite, Paul, claque, transformation, « Que veux-tu que je fasse ?» Souvent, dire là, j'aime bien le bâtiment, vous le savez. Pierre a été façonné, la pierre a été taillée à multiples reprises. On a l'impression que Paul, il y a eu vraiment un coup de masse. Et clac, la pierre était faite. Bon, encore du travail, mais vraiment, c'est extraordinaire. Paul, le voilà dans une vie d'humilité, les yeux ouverts par Ananias, accompagné par Barnabas, un disciple, mais sans notoriété, pas un grand ministère à ce moment-là. Révélation de sa misère. Qui me délivrera de ce corps de mort ? Transformation complète de cet homme, intellectuel, religieux, d'un zèle violent en un homme humble, souffrant les douleurs de l'enfantement spirituel pour des frères qui, après avoir connu la révélation de l'Évangile, se sont laissés de nouveau gagner par le légalisme. C'est un changement de nature de force pour Paul. des œuvres religieuses de la chair, du zèle amer à une douceur, à une vie livrée. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Troisième exemple, Jacques, le frère du Seigneur. Incrédule avant la résurrection de Jésus, Jacques va jouer un rôle important lors du concile de Jérusalem. Jacques était avec sa mère quand il venait rechercher Jésus en disant « mais il est à moitié fou, faut qu'on le récupère ». C'est aussi, il était de ceux qui disaient bah, « toi monte et puis vas-y, mais nous, ça ne t'intéresse pas ». Jacques. Et nous allons voir ces hommes, Pierre, Paul, Jacques. Vous connaissez l'expression ? Oh ben celui-là, il demande à Pierre, Paul, Jacques. C'est un fondement biblique. C'est le Concile de Jérusalem. Trois acteurs essentiels du Concile de Jérusalem. Je ne vais pas relire, on n'a pas trop le temps. Le Concile de Jérusalem, vous savez, il y avait une querelle. Des convertis issus du judaïsme voulaient continuer la circoncision, bref, tous les rites de Moïse. Paul, avec la révélation qu'il a eue, sait que ces choses-là sont terminées. Et dans la tournée missionnaire, ils ont eu de grosses discussions, mais bon, ils ne s'en sont pas laissés compter. Néanmoins, il revient à Jérusalem pour débattre de cette question. Et à Jérusalem, on va avoir quelque chose d'intéressant. On va avoir, la situation est exposée, voilà les difficultés qu'il y a. Paul aurait pu dire, avec la révélation qu'il a, au niveau doctrinal, il n'avait pas de problème pour trancher la question. Hein. Aucun problème. Pourtant, il va revenir à Jérusalem. L'église de Jérusalem, celui qui a autorité, en premier, je vais dire, c'est Jacques. Et puis, il y a Pierre. Et Jean ne devait pas être loin. Mais enfin, on ne le cite pas dans le texte. La situation est exposée. Pierre dit... c'est lui qui a été envoyé pour annoncer aux païens, du moins pour ouvrir sur les païens. Et il dit à ses frères juifs, parce que le débat continuait, dire, écoutez, est-ce qu'on va imposer aux païens des choses que ni vous ni nos pères n'ont pu supporter, n'ont pu accomplir ? Chacun écoute. Paul dit tout ce qu'ils ont vécu dans leur tournée missionnaire, et c'est Jacques qui va conclure. Avec vraiment une sagesse. Vous voyez, un esprit de force, on l'a vu dans le discours de Pierre, d'amour aussi, et de sagesse. Jacques, c'est vraiment la sagesse. Moi, je vous partage ça parce que, humainement, si on regarde ces trois hommes, selon la chair, chacun pourrait se prévaloir. Pierre pourrait dire, moi, je suis le premier à avoir reconnu Jésus-Christ comme fils de Dieu. Puis bien d'autres choses, j'ai marché sur l'eau, j'étais sur la montagne. Avec Jacques et Jean. C'est moi qui ai fait le discours de la Pentecôte, quand même. C'est moi qui ai ouvert l'évangile aux païens. Humainement, il aurait pu se prévaloir. Grand ministère, Pierre. Paul, docteur en théologie, brillant, élevé au pied du plus grand docteur en théologie. Une révélation extraordinaire, enlevé au troisième ciel, reçu des révélations... qu'on ne peut même pas dire. Il a fondé combien d'églises, Paul ? Une belle carte de visite. Jacques, moi je suis le frère du Seigneur. Et puis c'est moi qui dirige l'église de Jérusalem. Humainement, il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça pète entre ces trois-là. En fait, ils vont chacun apporter leur contribution à ce sujet difficile. Et c'est Jacques qui, par une parole de sagesse, va proposer la solution, honorant le Seigneur et gardant la paix entre les rachetés. Ce qui unit ces hommes-là, c'est le salut du plus grand nombre. À travers ce concile de Jérusalem, nous voyons le corps fonctionner, ou plutôt vivre. De manière harmonieuse. La miséricorde qui triomphe du jugement. La mort de Jésus qui agit dans la vie de chacun de ces hommes. Je
vais m'arrêter là sur ce point, mais je pense qu'il y a vraiment là des choses profondes dans nos vies. On a tous eu une révélation, mais on a reçu des dons différents. Je vous partage ce passage parce que, au début de ma conversion, j'avais du mal avec ça. Je disais, mais quand même, c'est Paul qui a reçu une révélation, c'est lui qui devrait... Non, parce que j'avais juste mis de côté l'amour, ne pas être pour d'autres une occasion de chute. Ils vont trouver une solution qui n'est pas un compromis, qui est piloté par-dessus tout qu'il y ait l'amour. Et vraiment, ce qui va sortir de là, c'est l'amour. Et ça, c'est des fruits de la Pentecôte. J'aurais un dernier point, très court, mais il y a des fruits aussi très concrets à la Pentecôte. Il nous est dit, dans la fin d'acte 2, qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Et dans acte 4 aussi, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Ce serait un message tout entier, mais je ne voudrais pas qu'on se dise sur ces phrases-là, « Oui, mais ça, c'était dans un temps comme ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, il y a des notaires. C'est très compliqué. » Mais c'est quand même un fruit de la Pentecôte. C'est un fruit de la Pentecôte. Où en est-on par rapport à nos biens? Et ce n'est pas la Pentecôte, la puissance de l'esprit de vie rend possible ces choses. Mais elles sont demandées par Dieu depuis le début. Il ne manquait de rien parce que ceux qui avaient beaucoup n'avaient pas trop, ceux qui avaient peu avaient assez, parce que l'excès des uns permettait de compenser aux autres. Et je vous ai assez dit, ce n'est pas un éloge de la paresse du tout. Ce n'est pas une occasion pour ceux qui ont peu de revendiquer quoi que ce soit. L'esprit de la Pentecôte, c'est des cœurs qui sont touchés. C'est des cœurs qui sont touchés. Et que chacun, nous avons à nous interpeller là-dessus. De regarder, non pas avec une culpabilité, je veux pas du tout, mais qu'on ne dise pas, ça c'était pour ce temps-là. Je crois que l'Église de Jésus-Christ et les églises locales, dans les temps qui viennent, dans ces temps où il y a violence, déchaînement, pourquoi il y a violence et déchaînement? Pourquoi on manifeste en ce moment? C'est encore pour des histoires de gros sous. Les droits des uns, droits de propriété des uns, droits sociaux des autres, droits de ceci, droits de cela. La manifestation du royaume de Dieu, elle passera par l'économie du royaume. Et je conclue parce que j'ai commencé. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit, de la puissance de ce qui s'est passé à la Pentecôte pour nous supporter et œuvrer ensemble. Et œuvrer ensemble. Dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais nos efforts ne suffiront pas pour nous supporter. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et je pense qu'alors, dans les temps-là qui sont, je ne dis pas les temps qui viennent, dans les temps qui sont, il nous faut franchir des étapes. J'avais eu à cœur de faire un appel, mais je ne vais pas le faire ce matin, parce qu'on n'a pas le temps. Mais peut-être que chacun, on emporte ça chez soi. Je voudrais ni vous repartiez avec un malaise, ni qu'on balaye le sujet légèrement. Revenons simplement à la parole. Regardons relisons ce qui s'est passé. Et il nous faut toute la puissance du Saint-Esprit qui engloutisse les choses de la chair, les choses qui sont tellement installées dans nos cœurs. C'est comme ça que je voulais vous en parler ce matin. Nous prions. Seigneur, oui, nous soupirons. Seigneur, nous avons reçu les arts de l'Esprit. Seigneur, je te prie ce matin que véritablement tu nous remplisses, oui, du Saint-Esprit. Seigneur, que c'est un esprit de vérité, mais un esprit d'amour qui répand un amour. Et c'est comme ça que nous avons su que c'était la vérité. Parce que, Seigneur, lorsque tu remplis, Seigneur, tes enfants de ton Saint-Esprit, il y a un amour que tu répands dans les cœurs. Et c'est un amour qui agit, Seigneur. Cette assurance, cette foi, elle est agissante, oui, par l'amour. Seigneur, elle n'est pas simplement une proclamation, Seigneur. Il y a une transformation. Seigneur, je te prie, Seigneur, que ce ne soit pas d'une manière religieuse, par obligation, par devoir. Père, nous te supplions. Seigneur, tu n'en as pas fini avec nous. Tu veux nous conduire plus loin. Seigneur, ce que nous ne pouvons pas, nous désespérons, Seigneur, de pouvoir que nos cœurs se brisent et s'élargissent, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur. Tu vas le faire. Je le crois, Seigneur. Je te le demande et je sais que c'est conforme à ta volonté. Bénis, Seigneur, notre assemblée. Bénis ceux et celles, Seigneur, qui t'ont donné leur vie et qui désirent avancer, qui désirent aller plus loin, Seigneur. Qui désirent recevoir, qui des fois se désespère, voir des choses qui reviennent, Seigneur, par ton Saint-Esprit, par ta puissance de l'Esprit de vie, Seigneur. Viens engloutir et viens amener cette vie abondante, Seigneur, que le monde y voit, Seigneur, non pas par des montages de notre part, mais par notre vie, par notre amour, Seigneur, par ces liens que tu tisses, que tu vas renforcer encore. Que le monde voit, Seigneur, ce dont il a désespérément besoin, Seigneur. Je te loue et je te bénis pour ce matin, Père. Amen.